Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nainar Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Dans La sculpture du vivant, Jean-Claude Ameisen propose un essai de biologie cellulaire centré sur la mort cellulaire programmée, souvent désignée par le terme apoptose. Médecin et chercheur, il examine comment ce mécanisme, longtemps interprété comme une simple défaillance ou comme le contraire de la vie, participe au contraire à la formation, au maintien et au renouvellement des organismes. Le livre relève de la vulgarisation scientifique, mais élargit son propos à une réflexion sur le changement, le vieillissement, la maladie et les frontières instables entre construction et destruction. Son objectif est de déplacer une intuition très enracinée. Le vivant ne se développe pas uniquement en ajoutant des cellules. Il se façonne aussi en éliminant celles qui ne sont plus nécessaires, mal situées ou potentiellement dangereuses. Ameisen retrace ainsi des découvertes biologiques et en tire une vision dynamique du corps. La mort, à l'échelle cellulaire, devient une fonction régulée qui rend possible l'organisation, diversité et continuité du vivant. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, l'apoptose comme mécanisme actif de régulation du vivant. Le point de départ du livre est la remise en cause de l'opposition intuitive entre vie et mort. Pour Ameisen, la mort cellulaire programmée ne constitue pas seulement le terme d'accidentel de l'existence d'une cellule. Elle peut résulter de signaux internes et externes, être déclenchée selon des mécanismes régulés, puis contribuer à l'équilibre de l'organisme. Cette idée modifie le vocabulaire même par lequel on pense le vivant. Parler de suicide cellulaire ne signifie pas attribuer une intention humaine aux cellules, mais souligner que leur disparition peut être inscrite dans un réseau de contrôle biologique. Une cellule survit parce qu'elle reçoit et interprète des signaux appropriés. Dans certaines circonstances, l'absence de ces signaux ou la présence de signaux contraires engage un processus de mort ordonnée. Le livre insiste donc sur la relation entre les cellules et leur environnement plutôt que sur une vision isolée de chaque unité vivante. Cette régulation évite aussi bien la persistance de cellules inutiles que leur disparition désordonnée. La notion de mort créatrice désigne précisément ce paradoxe : une destruction localisée peut produire de la forme, préserver une fonction et ouvrir des possibilités nouvelles. La biologie cesse alors de décrire un monde stable et devient l'étude de transformation continue. Deuxièmement, le développement embryonnaire façonné par prolifération et élimination, Ameisen montre que le développement d'un organisme ne peut être réduit à une multiplication cellulaire. Un embryon se construit par production de cellules, différenciation, déplacement et élimination sélective. La mort cellulaire participe à la mise en forme des tissus et des organes, car certaines structures transitoires doivent disparaître pour que d'autres puissent émerger. Cette perspective donne son sens au titre du livre « Le vivant est sculpté », non par une force extérieure, mais par des processus biologiques qui ajoutent et retirent de la matière vivante. L'élimination cellulaire n'est donc pas un gaspillage incompréhensible. Elle contribue à dégager des espaces, à corriger des organisations provisoires et à ajuster les populations de cellules aux besoins d'une structure en formation. L'argument a une portée méthodologique. Il invite à ne pas identifier la croissance à une accumulation linéaire, ni l'organisation à l'exécution mécanique d'un plan totalement préétabli. Les formes biologiques résultent de régulations successives sensibles aux interactions entre cellules, gènes et milieux. En mettant en regard naissance et disparition, le livre rend plus intelligible le caractère dynamique du développement. Il suggère aussi que la cohérence d'un organisme ne provient pas de l'immobilité de ses éléments, mais de leur renouvellement et de leur coordination au cours du temps. Troisièmement, cancer, immunité et maladies liées au dérèglement des morts cellulaires, le livre relie la compréhension de l'apoptose à des enjeux médicaux importants, sans présenter la mort cellulaire comme une explication unique de toutes les pathologies. Dans le cancer, l'une des difficultés peut venir de cellules qui échappent aux mécanismes conduisant normalement à leur élimination. Elles persistent alors, se multiplient et peuvent désorganiser le tissu auquel elles appartiennent. Cette idée complète une lecture du cancer fondée seulement sur la prolifération. Une tumeur peut relever à la fois d'un excès de division et d'un défaut de disparition. A l'inverse, une mort cellulaire excessive ou mal déclenchée peut contribuer à des atteintes tissulaires et à certaines maladies. Ameisen souligne ainsi que la santé repose sur un réglage fin et non sur la simple maximisation de la survie cellulaire. Le système immunitaire fournit un autre cadre essentiel. Il doit préserver les cellules et organismes utiles tout en neutralisant les éléments nocifs ou inadaptés. Les mécanismes de destruction et de protection y sont étroitement liés. Cette approche explique pourquoi l'étude de l'apoptose a renouvelé la recherche biomédicale. Elle aide à penser des interventions visant tantôt à restaurer l'élimination de cellules anormales, tantôt à prévenir des pertes cellulaires indues. Le livre reste surtout attentif à la complexité des signaux et des contextes biologiques, ce qui évite de transformer un mécanisme fondamental en solution thérapeutique simpliste. Quatrièmement, renouvellement neuronal, mémoire et identité en transformation, la réflexion sur le cerveau permet à Amazen de donner une portée concrète à la dynamique cellulaire. Les réseaux neuronaux ne doivent pas être imaginés comme une architecture définitivement fixée après le développement. La survie, la disparition et le renouvellement de certaines cellules participent à la réorganisation des circuits. Le livre associe cette plasticité à une question intellectuelle plus large, comment comprendre une identité personnelle qui se maintient alors que la matière vivante se modifie continuellement. La mémoire elle-même ne saurait être assimilée à un archivage parfait et immuable. Elle dépend de réseaux, de connexions et de processus de sélection qui peuvent conserver, transformer ou rendre moins accessibles certaines traces de l'expérience. Cette analyse ne prétend pas ramener les souvenirs à la seule mort des neurones. Elle met plutôt en évidence que le fonctionnement cérébral dépend d'un équilibre entre stabilité des organisations utiles et capacité de remodelage. Le cerveau illustre donc particulièrement bien la thèse générale du livre Persisté, ne signifie pas conserver chaque élément à l'identique. La continuité peut naître de remplacement, de réagencement et de transmission partielle, en rapprochant biologie du cerveau et interrogation sur le temps. Amazen évite le double écueil d'une vision fataliste du vieillissement et d'une promesse irréaliste de conservation intégrale. Le vivant demeure, mais il demeure en changeant. En dernier lieu, une pensée relationnelle où construction et destruction sont interdépendantes, au-delà de la biologie cellulaire. La sculpture du vivant défend une manière relationnelle de penser les systèmes vivants. Les catégories de bâtisseurs et d'exécuteurs, de protection et de destruction, de vie et de mort ne sont pas toujours séparées par des frontières nettes. Un même ensemble de mécanismes peut avoir des effets différents selon le contexte, les signaux reçus et les interactions entre composants. Cette observation conduit Amazen à privilégier une approche attentive aux propriétés émergentes. Les fonctions d'un organisme ne se déduisent pas simplement de la somme de ses parties considérées isolément. Les cellules, leurs gènes, leurs protéines et leur environnement participent à des dialogues dont les conséquences évoluent dans le temps. Cette perspective aide aussi à comprendre l'évolution comme une histoire de transformation, de réemploi et de réorganisation, plutôt que comme la réalisation d'un modèle immuable. Le livre ne propose pas une philosophie abstraite plaquée sur la science. Il part de mécanismes biologiques pour montrer que les oppositions simples deviennent insuffisantes. La destruction peut être une condition de la construction et une modification irréversible peut permettre une nouvelle stabilité. Cette pensée du changement donne une profondeur particulière à l'essai. Elle invite le lecteur à considérer le corps comme un processus en cours, fait de dépendance réciproque et de renouvellement, plutôt que comme un objet achevé dont la mort serait seulement la négation. En conclusion, la sculpture du vivant s'adresse aux lecteurs curieux de biologie, de médecine et de philosophie des sciences, y compris sans formation spécialisée. Il conviendra particulièrement à ceux qui veulent comprendre pourquoi la mort cellulaire programmée a modifié la manière de penser le développement, le cancer, le système immunitaire et le renouvellement des tissus. Le bénéfice intellectuel principal du livre est de fournir un cadre cohérent pour saisir une idée contre-intuitive dans un organisme. La disparition de certaines cellules peut être aussi nécessaire que leur multiplication. Cette thèse est expliquée non comme une formule spectaculaire, mais comme un fil conducteur reliant plusieurs niveaux du vivant. Le lecteur gagne ainsi une vision plus précise des équilibres biologiques et des limites des oppositions trop simples entre croissance et déclin, conservation et perte. L'ouvrage se distingue de nombreux textes de vulgarisation par son alliance entre histoire des découvertes, explication des mécanismes et réflexion sur leurs implications. Il ne se contente pas de présenter l'apoptose comme un fait de laboratoire ou une promesse médicale. Il en fait un instrument pour repenser la temporalité du corps et la relation entre individus, cellules et environnement. Cette ambition peut demander une lecture attentive, car les enjeux scientifiques et conceptuels sont denses. Elle constitue aussi sa force. Amazen propose moins un inventaire de connaissances qu'une transformation durable du regard porté sur le vivant, sur le vieillissement et sur la mort. Si vous souhaitez soutenir Jean-Claude Amazen, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.